architecte. Il est donc à Newcastle, au Kentucky, en Angleterre. Son parcours dans l'architecture est un parcours qui n'est pas linéaire, donc je crois que c'est sans doute aussi ce qui en fait toute la richesse, puisque au départ, vous êtes d'abord de formation de designer, diplômé à Londres, et vous êtes finalement tombé assez rapidement dans le virus de l'architecture et des projets à échelle un petit peu plus grande que celle que parfois peuvent offrir les projets de design, en travaillant notamment dès 88 avec un grand groupe d'architectes. Quand je dis grand groupe, c'est grand groupe sur le plan bien évidemment intellectuel, le Team Zoo à Tokyo au Japon, qui, au-delà du fait que ce soit au Japon, a été effectivement avec un groupe qui a permis effectivement d'avancer sur la pensée en architecture. À partir de 90, et c'est là sans doute que votre chemin croise les terres de la Gironde, puisque vous revenez en Europe, en France, et vous travaillez avec Jacques Onglat, architecte à Bordeaux, grande figure de l'architecture contemporaine. Et dès 91, vous croisez également donc, le chemin d'Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, là aussi donc, architecte à Bordeaux, dans le cadre du projet concernant la Maison de la Culture du Japon à Paris, projet mentionné, et pour le Centre culturel des Portes Jumelles d'Osaka au Japon, où finalement, même à Bordeaux, vous gardez un regard vers ces terres lointaines. À partir de 92, donc, vous vous associez avec Édouard François et François Roche, et à ce titre, dès 92, on parle de la nouvelle génération des architectes, et vous en faites partie. Je précise d'ailleurs qu'à cette époque, vous n'aviez toujours pas ce fameux diplôme d'architecte. Vous étiez toujours, vous faisiez de l'architecture, mais avec ce regard du designer et de grand voyageur. Premier prix à l'International Forum of Young Architects à la Biennale d'architecture de Sofia, Bulgarie, en 97. 98, création de l'agence d'architecture Lewis Potin Lewis à Angers. Et c'est seulement en 2000, finalement, que vous êtes diplômé d'architecture par la commission ministérielle de la culture à Paris, qui reconnaît par ce diplôme ce savoir-faire. Et donc, par rapport à votre parcours, c'est au travers de votre savoir-faire et de vos expériences que finalement vous accédez à ce diplôme. Ce qui en soi est déjà une aventure. Mais non content d'avoir ce diplôme d'architecte qui vous permet finalement d'exercer en titre sur le sol français, vous développez aussi une activité d'enseignement qui manifestement donc fait partie aussi d'un certain nombre de valeurs que vous défendez, c'est-à-dire transmettre, discuter, échanger, apprendre. Et donc vous enseignez dans plusieurs universités. On peut citer très rapidement donc, l'Université de Barcelone, Londres également, et enfin donc Versailles. Dans les projets, puisque là aussi l'architecte a un discours, a une posture, mais a aussi une production. On peut citer, au-delà des concours que je viens de citer très rapidement, quelques projets et non des moindres, comme des logements sociaux donc, à Valencia en Espagne. Des logements également primés dans le cadre de City Manifest à Mulhouse, où vous côtoyez là aussi d'autres noms connus de l'architecture contemporaine, Jean Nouvel, vous retrouvez d'ailleurs Lacaton Vassal, Mathieu Potvin. Projet qui là aussi, comme son nom l'indique, au-delà du logement, au-delà de services que ce projet peut procurer, excusez-moi, s'inscrit dans le cadre vraiment d'un manifeste, hein, puisque c'est le titre même des projets. On peut également citer enfin donc, une bonne nouvelle, puisque vous l'apprenez ce jour, vous êtes retenu dans le cadre d'un projet de logement qui concerne la rénovation urbaine à Lormont-Génicard, donc en Gironde. Et vous allez être amené là aussi à la fois à réfléchir mais à construire sur des territoires d'ailleurs où se sont déjà inscrits une certaine page de l'histoire de l'urbanisme et où bien évidemment là aussi il convient de réinterroger à la fois le logement, le bâti, mais également la nature. Transition pour la conférence, même si elle est un peu maladroite. Vous allez nous parler donc de ce que ça veut dire de construire avec la nature, sous l'angle de l'architecte, mais comme on l'a vu, sous l'angle de l'architecte qui a à la fois un long parcours de designer et qui est aussi un grand voyageur. Monsieur Lewis.
Merci beaucoup. Comme d'habitude, il faut que je dis excuse-moi. Comme d'habitude, il faut que je dis excuse-moi parce que je parle très très mal, même comme je suis ici en France depuis un bout de temps maintenant. C'est quand même 20 ans. J'ai toujours le bagarre avec ma femme qui est française. Mais voilà. Excusez-moi, quelques mots, il va être déplacé. J'ai toujours un problème avec de vous et de tu hein, et tout ça. Une autre chose, c'est s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner des questions pendant la discussion, que je voudrais bien. C'est une discussion aujourd'hui et pas juste un discours de ma part. Ça, c'est très important pour moi. Voilà, le sujet, le croissance verte, c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai toujours travaillé avec cette notion de contexte, comment on est, où on est. Et ici, dans une salle comme on voit aujourd'hui, je suis complètement dehors de mon propre contexte. C'est assez complexe, je suis assez énervé, mais bon, je vais essayer de faire partager avec vous un petit voyage. Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'enfants, mais bon, j'en ai mis quelques petites images, mais bon, je vais continuer à partager avec vous. Voilà, j'ai un arrière-éducation assez complexe. C'est juste récemment que je suis architecte. Je suis jeune architecte, mais je commence à m'essouffler déjà parce que c'est un métier complexe. Les équipes, ils sont gigantesques. Et beaucoup de choses que je voulais partager avec vous ce soir, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de montrer, parce que c'est aussi au travers de vision de leurs amis. C'est des architectes amis, de paysagistes, de botanistes. So, il y a beaucoup de projets que je montre ce soir qui ne sont pas mon production. Mais c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et bon, j'essaie de partager ça avec vous. Voilà. On va commencer à discuter sur cette problématique de développement durable. Une petite histoire. La semaine dernière, j'étais à Belfast, dans l'Irlande du Nord. Tout de suite après, j'ai fini mon diplôme à Londres. J'avais l'opportunité, à l'âge de 23 ans, de créer un cours de design, interior design et industrial design à Belfast. C'était autour de 86. C'était un moment très chaud. Et comme je dis chaud, ma mère, mon père, il n'était pas très pour que j'ai mis ma pierre à Belfast parce qu'il avait des chats, il avait des attentes partout, quotidiennement. Et une fois que j'étais dans l'université une matinée, à moitié du bâtiment, il est disparu. Pendant cette période-là, j'ai passé un moment absolument incroyable, mais à la fin de l'année, j'ai eu un accident de voiture extrêmement sauvage. J'ai des gens qui me trouvaient dans un arbre à Donegal, c'est dans le côte ouest, à 5 heures le matin. Je ne veux pas dire que je n'avais pas bu, mais j'étais dans l'arbre, j'avais mes dos cassés en 5 ou 6 morceaux, j'avais mes deux bras cassés, un jambe, et j'ai eu quelques coussures dans mon visage, de 66 coussures dans mon visage. J'ai passé 2 semaines en coma, et après ça, j'étais transporté dans un hôpital spécialisé à Belfast, pour un série de réhabilitation qui a duré 6 mois. Après ça, j'avais tout un série de travail en piscine pour réhabiliter ma corps. Ces expériences, ils sont dures, mais ils sont extrêmement précieux. Ils sont précieux sur moi parce que c'est ça qui est formalisé un peu les attitudes, même que je peux que montrer ce soir superficiellement, mais ils sont très importants pour moi et j'ai envie de vous partager avec ça. Cet moment que je passais dans cet hôpital pendant 6 mois, c'était absolument fantastique. C'est étonnant dans un moment si dur et si radical, on peut passer de bons moments. Et unfortunately, dans la vie quotidienne aujourd'hui, le partage c'est souvent détruit. La vitesse, peut-être c'est ça qui nous supprime et sucre toute cette chose que j'ai envie de partager. Voilà, so, on va commencer un petit voyage. C'est un voyage qui allait à droite et gauche, haut en bas. C'est un peu, non, c'est vraiment mélangé. Voilà, so, vous imaginez, moi je travaille sur un peu comme ces messieurs là, avec ce truc des oreilles là, la caméra. J'avais travaillé pour des gens au Japon en train de fabriquer ce type d'appareils dans les années 80. Et aujourd'hui, je travaille sur des territoires si importants que tous les Catalans pour réfléchir sur le problème de tourisme. So, on voit cette forme de switch, d'échelle absolument gigantesque. Voilà, bon, on va commencer à faire un petit voyage. N'hésite pas de donner une petite... Voilà, je suis extrêmement intéressé de cette notion dans le terme botanique de l'écosystème. Un écosystème, c'est quoi? On voit un écotone, excuse-moi. Un écotone, c'est la fabrication entre deux écosystèmes, c'est un moment de chevauchement. Et dans ce moment de chevauchement, il crée un troisième écosystème. Et ce troisième écosystème qui est unique, il protège les deux écosystèmes qui habitent presque ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, la chose que j'aime beaucoup dans ma métier, c'est écouter les autres. Et surtout par les architectes. Parce que les architectes, ils m'emmerdent. Hein? C'est le monde qui sont un peu égoïstes. Je peux faire parler avec des boulangeries, avec des gens qui sont vraiment un peu terre à terre. C'est des choses que j'aime vraiment beaucoup à faire. So, je suis assez content, je ne vois pas trop les archives ce soir, so, je me sens assez à l'aise. Sauf que peut-être une qui a donné un coup de fil, mais bon, ça c'est une autre chose. C'est très très important, notre attitude et garder notre pièce sur terre. Mais parce qu'on garde notre pièce sur terre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager notre rêve. Parce que c'est ça qui manque dans nos vies, et c'est ça que tout le monde y cherche. Et c'est cette bout de rêve... Hein, qui avance jour par jour. So, voilà, c'est un peu ici, cette image-là. C'est le moment où la terre et la mer ils se mélangent. Et dans l'agence, j'ai beaucoup de bouquins qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Et beaucoup de bouquins qui sont liés sur la photographie, la littérature, le mode, et particulièrement sur le paysage. Et... tu veux voir, dès que je commence à avancer, le paysage pour moi, c'est quand même une empreinte clé de le travail de l'agence. Et c'est là qu'on va commencer à lier cette idée de développement durable. Qu'est-ce que c'est pour moi le développement durable? Développement durable, c'est lié à la notion de temps. Et le temps, il peut être ça. Pour moi, c'est durable. Et aussi, le temps peut être éternel, un peu comme Stonehenge, où on a des énormes morceaux de pierre accrochés à le sol. So, ça, c'est une autre chose qui souvent on oublie dans notre métier de l'architecte, c'est cette notion de temps. Et j'ai envie de donner le temps à les gens, et j'ai aussi envie que l'architecture que j'offre, ce n'est pas fini. Parce que j'estime il faut que je partage un voyage, et le voyage que je commence, c'est un pur moment de commencement, et c'est pas un fin. C'est pas du tout, comme on a vu, la notion de mode de mouvement qui en donne les clés, tout est nickel, chrome, un belle boîte blanche assise sur un morceau de pelouse. Non, ça c'est, pour moi, ça c'est pas un habitat, ça c'est pas un écosystème, et c'est donc pas dans cette manière que j'ai envie de partager mon savoir-faire. Voilà, ça c'est juste quelques images. Ça c'est une autre chose sur le, j'étais un peu mitigé par rapport le titre de la conférence. Parce que comment on parle de nature, Pour moi, c'est pas juste l'herbe dans le jardin, quoi. C'est loin de ça. La nature, c'est human nature. C'est toute cette sensibilité qu'on apporte avec nous et qu'on a envie de partager dans ce moment très, très spécial, quoi. Je voulais bien compter plein d'histoires, surtout avec Jacques Andelatte, qui pour moi, c'était un bon homme, absolument remarquable. Il m'a partagé des moments très proches, très solitaires. Et voilà, je vais peut-être parler ça plus tard quand on a un peu de temps, parce que j'ai 300 diapos que j'ai envie de vous montrer. Voilà, ça c'est comme j'avais dit, la planète aujourd'hui, il est sacrément abîmé, quoi. Notre planète, il est saturé d'agression humaine. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas retourner ça en arrière. C'est un faux semblant qui pense qu'on peut arrêter des choses. Je voudrais bien, mais on n'est pas Dieu, les choses sont commencées. C'est un peu comme un TGV. Comme le TGV arrête, ça prend un certain temps. So, il faut juste être conscient un peu de notre environnement et de voir un peu comment on peut utiliser l'état de cet environnement aujourd'hui dans un bon sens pour demain, quoi. Voilà, ça c'est pas un tableau, hein. Ça c'est un morceau de la forêt Amazon, et on voit les endroits de déforestation sur cette image. Voilà, c'est encore le morceau de notre planète. Je pense vendredi soir, tout le monde a pris énormément de plaisir de regarder un film qui est sorti, qui est absolument magnifique. So, voilà, ça c'est notre contexte. C'est un peu vu de lointaine, mais c'est notre contexte qui existe. Et c'est un peu comme moi, comme j'ai eu cet accident sur mon visage, j'ai eu plein de cicatrices. Et ces cicatrices, moi je regarde dans le miroir chaque jour, ils n'existent plus, quoi. Je vis avec, voilà. À le moment que j'ai eu l'accident, j'étais effrayé. Parce que je sentais mon visage complètement plissé avec la pression, avec la cousure, tout ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. Et je pense aussi, comme je regarde ces images de notre Terre, c'est la fabrication de notre Terre. Et pour moi, c'est un matériau maintenant de bâti. C'est un matériau de discussion. Moi, je pense, comme on commence à réfléchir sur l'architecture, déjà, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont là sur place. Il faut juste prendre suffisamment de recul et de ne pas juste regarder un contexte, mais laisser le contexte nous regarder. C'est un échange. Il faut faire un échange. Je sais, c'est pas évident aujourd'hui. Pour moi aussi, je suis dans une agence où j'ai des problématiques de personnel, j'ai des problématiques de thunes, j'ai des problématiques que voilà, j'ai oublié des papiers chiottes et mes personnels, ils commencent à hospiter. Bon, on se trouve des solutions, il n'y a pas de problème. Les supermarchés sont pas loin, même en centre-ville. So, voilà, ça c'est des images qui m'intriguent. C'est l'homme avec sa façon d'être sur notre planète, ses agriculteurs. Et on voit ici, comment prendre le recul, on voit comme l'homme, avec ses outils, comme il moule les choses, comme il traverse ses endroits, ses territoires. Les territoires sont liés sur la nature du sol, sur la nature de l'air, sur le soleil. Je pense en l'architecture, peut-être il faut parler un peu plus de soleil plutôt qu'une façade agrafée avec la pierre. Le vent, c'est très important pour l'architecture. Peut-être on ne parle pas assez sur l'histoire sur le vent. Toutes ces choses-là, je pense, c'est des éléments qui rendent notre métier et notre monde durable. Il ne faut pas oublier ça. Je peux raconter une histoire, mais peut-être je n'ai même pas commencé la conférence, mais je vais raconter une histoire quand même. Je peux faire ça. J'en ai marre de l'archi. J'ai fait 24 sur 24. Croyez-moi, c'est 24 sur 24. Ma femme, elle travaille avec moi, elle est associée. Vous imaginez, c'est vraiment, c'est de folie. Et ma fille, elle est bon. J'étais à Florac. C'était peut-être dans les années fin 80, 89. Et Jacques Andelat, il m'a dit, Duncan, je ne sais pas ce que tu aimes bien de Toramachi, mais on va aller à Florac pour voir un truc. So, je dis, bon, ok, Jacques, on y va. So, on était avec l'agence. Jacques, c'était un brave homme qui aimait bien partager des choses absolument extraordinaires. Partage, c'était vraiment des choses qui soulignaient son existence pour moi. Et voilà, on était là à Florac, on arrivait, il y avait des gens en train de cuire de merguez, des choses comme ça. Ça ne sentait pas du tout comme le toromachi que je connais en Espagne, quoi. Des merguez, des choses comme ça, mais c'était quand même sympa, il y avait une bonne ambiance. Et on arrivait à la reine, et très, très, très curieux, l'ancien reine de Florac, de trucs un peu temporaires, quelque chose qui vient, qui part. Et voilà, entrer dans l'arène, juste comme ça. Jacques dit, c'est génial, tu adorais ça. Et c'est commencé. C'était nul à chier. Il avait le premier taureau. C'était terrible, matador, picador. C'est duré en éternité. C'était affreux. Et voilà, deuxième taureau, troisième taureau. Après, les gens, ils commencent à penser de se merguez, de bouffer quelque chose. Et voilà, quatrième taureau, on était envie de casser. Hein. C'était vraiment pas marrant du tout. C'était horrible. Et après, il y a le cinquième taureau qui entre. Petit truc, un peu comme un chien avec le corne, pas très grande. Et c'est entré, et il se met en plein milieu de la reine, il soulève sa petite tête comme ça, et il regarde tout le monde. Tout d'un coup, une petite ambiance se commence à changer, on se demande qu'est-ce que c'est ça. Hein. Et après une dizaine de minutes, l'ambiance s'est changée complètement. Quoi. Tout le monde s'est calmé. Et on commence à voir la danse entre l'être et la bête. Et il y a des choses absolument extraordinaires qui se passaient. Une forme de danse avec des dessins dans le sable. Extrêmement étonnant. Et voilà, c'est arrivé à le moment de la mort. Et le torero, il entre l'épée dans le cou de la bête, et tout d'un coup, la bête, il arrête. Le taureau, il recule. Il restait avec ses quatre pattes bien, bien fermes. Et pour la deuxième fois, il montait ses têtes, il regardait tout le monde. Pour quelques instants, pas grand-chose, mais quelques instants. Et tout d'un coup, il avait un vent qui montait, a monté et monté. Et derrière les arènes, il avait toute une rangée de peupliers. Et dans le peuplier, il avait de petites fleurs blanches, tout délicates. Et le vent, il montait toutes ces graines dans le ciel. Et c'était un moment, c'est en train de neiger, c'est très très curieux. Et tout d'un coup, le vent, il se baisse un peu. Et ces flocons de neige, ces graines de peupliers, ils se descendaient tout doucement. Et c'était incroyable, il y avait de la neige qui tombait dans le dos de le taureau. Et tous ces pétales, toutes ces fleurs blanches, ils deviennent très très rouges. Et tout d'un coup, le taureau... Et c'était fini. C'était un moment, je ne sais pas ce que c'est bien, mais c'était un moment partagé avec mon ami Jacques Andelat. Voilà. Et c'est pas souvent qu'on attend un architecte en train de parler avec ce maître ouvrage de cette façon-là. Et je pense qu'il faut. Voilà. Ça c'est juste montrer d'autres images. Ça, c'est dans un ancien bouquin que j'ai pris à Londres dans les années 80. On voit encore l'homme dans son planète en train de sculpter des choses. Et Comme j'avais dit, moi j'étais un personnage à l'habitude de travailler sur les choses microscopiques. Et cette notion d'échelle, cette notion de territoire, c'est fracassé toute ma vision de la chose, toute mon vision de la chose. Et on voit ici cette petite silhouette à côté d'une énorme cascade. Ouais, ici, c'est une image dans le sud de l'Espagne. Et on voit le passerelle accroché sur cette magnitude de minéral. Voilà, et ça, c'est une montagne en Tenerife. Il y avait un artiste que j'aime beaucoup, il s'appelle Chilida. Et il avait bâti un projet architectural sur cette montagne. Et il avait travaillé avec... C'est un des plus importants groupes d'ingénieurs à Londres, Alvarop. Et l'idée, c'était de faire des tiges métalliques qui traversaient toute la montagne. Et après, il a mis des énormes vis pour tenir la montagne ensemble. Et dedans, il creusait. Il creusait pour créer des espaces de volume absolument gigantesques. C'est des choses que j'aime. C'est des choses que j'aime bien regarder, c'est des choses que j'aime bien partager avec des gens. C'est la manière de travailler avec un territoire, avec un paysage qui me pose beaucoup de questions. Mais c'est ça, on n'est pas souvent les answers, les réponses de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on pense. Je préfère, on reste avec cette notion de questions. Voilà, ça c'est Torsa, c'est dans un flanc de colline. Voilà, c'est l'architecture que j'aime beaucoup. C'est fait par un architecte pas très connu, mais on voit cette rapport contextuel de choses, de manière de prendre des choses qui sont sur place et de profiter de ça, de mouler ça et de pousser ça en service de l'habitat. Ça, c'est quelque chose que j'ai aidé beaucoup. Voilà, ça, c'est un paysage.
C'est un paysage dans le
sud de l'Espagne. On a parlé beaucoup des problèmes de fraises qui sont...
pas très bien, qui viennent de l'Espagne.
Ça, c'est tout le cerf horticole. Est-ce que ça, c'est terrible? Est-ce que c'est pas terrible?
Moi, je trouve ça assez intéressant.
Pourquoi c'est intéressant? Mais comment on pense pour un moment, l'homme, il peut dessiner tout ça?
Toutes ces histoires de limites par limites,
cette
manière de fractionner
l'espace, le terrain,
c'est assez intéressant.
Voilà, cette notion de space, de territoire,
qui devient aujourd'hui une préoccupation de nous tous,
surtout
les architectes, les urbanistes. Ça, c'est un monument.
Ça, c'est une sculpture en Sicile. Voilà, ça, c'est un artiste qui a pris
un village qui n'existe plus.
Il a pris toutes les traces de toutes les petites rues
dans ce village.
Il avait fait des moulages en béton
qui fabriquaient cette idée de monument. So, c'est un monument territorial que je trouve extrêmement fort.
Et on voit cette échelle.
Voilà, et beaucoup d'architectes, ça c'est des architectes qui travaillent en Angleterre,
ça c'est un projet au Japon,
ou des architectes aujourd'hui, cette notion d'échelle, d'espace, cette notion de notre planète,
ça c'est un bâtiment.
Ça c'est un bâtiment absolument gigantesque, mais c'est un territoire. C'est un terminal à Okayawa. Voilà, c'est fait par Foreign Office. Et ça, c'est juste pour vous montrer cette notion de notre rapport au site, au contexte,
au devenir d'un territoire.
So, c'est un bâtiment territoire. Et c'est cette notion de territoire qui m'intéresse beaucoup parce que on est souvent travaillé cette idée de usage. L'usage, pour moi, dans un projet architectural, c'est absolument fondamental. C'est ça le point qu'il faut absolument répondre. Mais pour moi, ces histoires de usage ne sont pas juste liées sur un seul bain. Ils ne sont pas juste liées sur le traitement de salon, de la cuisine. Oui, ils sont très importants. Ils ne sont pas juste limités sur la notion de la façade, l'édifice. Ils ne sont pas juste liés, le projet architectural, ce n'est pas juste lié de 50 cm de façade. Il peut être aussi lié si loin qu'un kilomètre avant on arrive dans notre édifice. C'est tout un parcours, tout un travail par rapport au corps et notre environnement, notre habitat. Voilà, ça c'est notre projet qui est assez connu ici en France, en Vendée. So, ici on voit le bâtiment, il se superimpose avec un contexte. Il prend toutes les couleurs de ce contexte, un peu comme un caméléon. Voilà, ça on voit vu de loin, il est en forme de mariage. Mais est-ce que ça c'est de cachet? Je ne crois pas. Est-ce que c'est de camouflage? Certaines personnes pensent que la chose que je fais c'est lors de camouflage. Je peux montrer que ce n'est pas du tout de camouflage. Et la chose qui m'intéresse beaucoup ici, c'est qu'on est dans une situation où la matière de construction, la matière de regarder ce territoire, il est vivant. Comme nous tous. Et cette notion de quelque chose vivant, ça veut dire que c'est quelque chose lié avec la notion de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut partager avec tout le monde, cette notion de notre édifice, de notre architecture dans le temps. Et voilà, ça c'est un morceau de sculpture que j'aime beaucoup. C'est une pièce de Rodin. Et je rappelle, comme la première fois, j'étais dans le musée Rodin, il avait cette pièce qui était en face d'une fenêtre, et je fermais mes yeux. Normalement, on n'a pas le droit de toucher, hein, parce que c'est là. Mais tout de suite, comme je regarde cet objet-là, il demande d'être touché. Rodin, avec sa main, avec cette énergie et cette force, c'est lui qui provoquait cette situation, ce moment. Pour moi, c'est normal, c'est notre devoir de toucher. Tu sais, de sentir peut-être des choses. L'artiste, j'ai un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement lié par notre yeux, quoi. Et ça, excuse-moi d'utiliser le gros mot en français, mais ça me fait chier un peu, quoi. On est trop dans une situation d'être jugé. On est toujours en jugement. Jamais en situation de partager. Pas jamais. J'exagère. Un caresse, un lame, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je touchais cette sculpture et la chose qui était vachement beau, c'est le soleil qui entrait dans la fenêtre. Avec ma main, je sentais que oui, il avait cette quelque chose de beaucoup plus lisse. Et le moment qu'on a juste touché, le moment de la pierre qui était plus rigoureux, il avait un changement aussi de température. De façon dont la pierre absorbait cet environnement, ce contexte au travers de la fenêtre. Et oui, je pense que l'architecture aussi, il faut être possible de toucher. Même avec les yeux fermés et d'expérimenter des choses absolument inouïes, ou même peut-être agressives, ou peut-être pas plaisantes, mais il faut que ça existe dedans. Voilà, bon, c'est le moment que peut-être il faut que je montre un projet que j'ai en train de faire. C'est un projet assez. C'est un concours que j'ai gagné l'année dernière avec Jean Desjacinto, ici à Bordeaux, et. C'était un ancien lycée. C'est un lycée. Je ne veux pas montrer le lycée parce que c'est affreux, quoi. Tu peux pas faire de l'éducation dans un truc pareil, quoi. C'est de folie. Et c'est un ancien lycée construit dans les années 70. Et j'ai appris un truc, mais hallucinant. C'est dans les années 70, en Algérie, ici en France, on était en train de préparer toute une série de lycées. Et on est fait plein d'architectes qui sont en train de travailler sur ces lycées. Et après, il avait des problèmes, de petits problèmes avec l'Algérie et la France. Ce n'était pas possible de mener ces éléments, ces architectures en Algérie. So, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on ne peut pas mettre dans la poubelle. So, ils ont mis ça un peu partout en France, quoi. Aucun geste contextuel de ces ouvrages où se trouvent. Un truc de folie, quoi, tu vois. Comme tu as un vase, tu mets des fleurs dedans. C'est normal. Voilà. Et là, non. So, le concours, c'était de démolir tout ce lycée et de reconstituer un nouvel lycée. Et à Revin, il est un unemployment absolument gigantesque. Ils ont beaucoup de problèmes. Voilà, so, c'est un lycée qui va être, en fond de, on espère, qui va être un peu un phare de la région de Champagne-Ardenne. Voilà, so, cet lycée, il est construit dans une colline aujourd'hui, mais c'est saccagé de collines et de gros terrasses. On ne comprend pas où on est, quoi. C'est terrible. So, je dis ben, à des clients, ben, ça c'est vachement intéressant. Ça c'est l'homme sur une géographie, sur un territoire. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il travaille? Comment il fait cette terroir au service de l'homme? Voilà. So, je dis, ben, peut-être ça peut nous donner une idée pour un projet. Voilà. So, l'idée, c'était de reconstituer le colline et de fabriquer un lycée. C'est 19 000 mètres carrés de lycée, so c'est un grand morceau. Et vous imaginez, il y a un dénivelé de 38 mètres, presque 40 mètres. Et il faut, c'est handicapable. Il faut, tout le monde peut se balader, bien sûr.
Sur les choses qu'on a décidé de faire, c'est de faire un peu comme
on balade dans la montagne.
On fait une petite rampe qui traverse tout le site
où tout le monde peut utiliser. Ce n'est pas pour les handicapés. Oui, c'est handicapable, mais c'est pour tout le monde.
Et voilà, l'image est un peu sombre, mais ça c'est montrer un peu ces inspirations, ce territoire qui nous avait donné certaines indications,
une certaine posture. Voilà, c'est ça. Un architecte, il faut une posture sur un site, sur un lieu, sur un besoin, sur un usage.
Et ça, c'est l'image de le projet. Voilà, c'est une série de
terrasses, de rizières.
Avec la toiture plantée. Voilà, on a juste déposé le permis de construire, et là, on a... Mais c'est le boulot. Hein. C'est le boulot. Voilà, et l'idée, c'était cette rampe qui traverse tous ces projets-là. C'est pas juste un flou dans le bâtiment, mais c'est aussi un lieu de ressemblement. Hein? Des gens, ils allaient dans le moment de mouvement, et voilà, c'est donc ça. So, au cœur de cette lycée, dans ce dénivelé, il est le lieu où les étudiants veulent partager des espaces, ils veulent rester, on veut le faire des endroits où on peut boire un coca. Et ces projets aussi, c'est très simple, c'est pas très compliqué. On voudrait donner à tout moment dans cette lycée une vue de la vallée, de Revin. Parce que c'est beau. So, comme on est dans le lycée, toujours on voit de l'extérieur, on voit la vallée. Voilà, c'est tout. So, ça, on est en train de travailler dessus à ce présent moment. Ça, c'est un très, très vieux projet que je vais faire en 1993. Il y avait un company autoroutier qui disait, voilà, on a besoin de faire un pont qui traverse un lac. Et c'est un lac qui n'était pas terrible, c'était à Versailles. Et voilà, on a fait un concours et on a gagné. Unfortunately, le projet il est pas fait. Mais c'était une époque, dans les années 93-94, avec des amis Edouard François et Françoise Roche, on était en train de travailler sur cette notion de territoire dans l'architecture. Et ici, pour nous, de travailler sur un morceau d'autoroute, c'est hallucinant, quoi. C'est un morceau de ville, une autoroute. Il y a plein de choses. Et voilà, des choses qu'on essaie de faire. On a dit, cette pont qui allait au travers d'un lac où les gens y allaient quotidiennement, aussi surtout le week-end, on ne veut pas saccager l'espace, on veut essayer de donner un plus. So, on a dit, ben, qu'est-ce que c'est une autoroute? Mais surtout, qu'est-ce que c'est une route en France? Qu'est-ce que c'est notre image mentale d'une route en France? Ben là, j'ai joué des cartes un peu écossais, anglais, et je dis, ben, c'est la ligne droite avec des arbres. C'est un monstre de territoire. C'est complètement artificiel parce que c'est l'homme qui est fait. Et on a dit, finalement, la chose qui peut être intéressante, c'est de faire un pont exactement dans la même manière. So, on est décidé de faire un pont qui faisait un kilomètre. Et l'idée, c'est comme on arrive sur ce pont, on va fabriquer un paysage. On va fabriquer un lieu. On va travailler avec un système de plantation. Et doucement, cette plantation, il veut se changer, il veut se déformer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lac, il y a un dénivelé. Et ça veut créer une forme d'aléatoire. Et dans cet aléatoire, on veut poser un pont très simple qui veut faire une forme de mariage, une osmose, avec ce langage paysager, avec cette structure paysager, pour faire une forme de confusion entre qu'est-ce que c'est un paysage qui est artificiel, qu'on utilise, qu'on manipule, et comment ça va être serviteur d'un projet architectural.
Voilà, bon, ça c'est de maquette, et dans cette époque-là, bon, c'était assez nouveau comme attitude à prendre. Peut-être que ce n'est pas vrai ce que je dis, parce que c'est, à mon avis, tout ce type de démarche est toujours existé depuis une éternité. Et voilà, bon, ça c'est toute cette maquette et dessins, ils étaient achetés par le Centre Georges Pompidou. Et voilà, et ça c'est l'image que j'avais fait moi-même un peu à la main. Pour cette époque-là, on avait des photocopieurs, on n'avait pas d'informatique. J'ai pris une photo de Louisiane, le Texodium, et bon, je bricolais, je tournais inside out le pont, et c'était un truc très simple. Mais on voit au travers de l'image, voilà, c'est cette confusion entre un support architectural et un contexte construit, artificiel. Mais c'est assez sympa à la fin. Voilà, ça c'est des images très privées, hein, mais bon, je veux partager avec vous. Qu'est-ce que c'est l'idée de camouflage? Ben, le camouflage, ça peut être ça. Ça, c'est pendant la guerre. Ça, c'est une grande usine de fabrication des avions. Voilà, c'est ça, ils ont fait ça. Ils ont complètement habillé toute l'usine. Ils ont mis de faux maisons sur la toiture et de faux arbres sur la toiture. Oui, c'est le camouflage, mais c'est dans un territoire absolument décalé et très intéressant. C'est un magma de matière. Regarde, tous ces arbres sont faux. L'usine est dessus. Voilà. C'est un territoire, c'est un nouvel territoire, c'est un nouvel type de langage que je pense qu'il faut se profiter. So, l'homme et la nature. Et la période que je restais à Japon, et il y a des choses fous là-bas, mais fous. Ça, c'est la plus grande glycine dans le monde. Il date, je ne sais pas combien d'années. C'est absolument incroyable. Tu vois les gens derrière, ils sont tout petits. Et là, c'est l'homme, c'est la nature, c'est l'homme qui pousse la nature un peu dans une artificiality. Mais cette artificiality font que c'est un langage architectural qu'il faut se profiter. Et c'est beau. Et il y a des amis architectes qui travaillent aussi sur cette notion de comment on imbrique cette langage paysager, même sur le bâtiment existant. Pour travailler cette notion de filtre, de confort. Ça, c'est une usine, c'est un projet par des amis à Madrid, voilà, qui sont travaillés avec des différentes couleurs de roses. Et c'est des vraies roses qui sont imbriquées dans un filtre au travers d'une grosse usine d'incinération.
Voilà. Et qu'est-ce que c'est le paysage en ville? Qu'est-ce que c'est le paysage en ville de demain? Ben, il existe. On a besoin de cohabiter. On a besoin de travail sur l'architecture et la densité en ville. C'est fondamental. On ne va pas pousser tout le monde en périphérique. On voit comment on est saccagé tout le périphérique de notre ville depuis des années et des années. So, il faut penser qu'est-ce que c'est la nature en ville. Comment on a envie d'habiter en ville? Quel confort on a envie d'habiter en ville? Et on voit, ça c'est le jardin Luxembourg à Paris, l'homme avec cette nature en ville, c'est étonnant.
Voilà, ça c'est en Espagne.
Tout le monde me dit, comme je travaille, prends pas des arbres trop près de la façade.
Là, ils sont contre la façade.
Moi, j'ai connu des endroits en Angers où on fait un mur et en façade sud, on fait traverser la vigne qui traverse le mur. C'est plus chaud. La vigne, elle est plus contente. Il développe mieux. Il fait un super vin.
Voilà, ça c'est des exemples de deux amis que j'aime beaucoup, John Wines.
Cohabitation. Cohabitation en ville. Entre ce paysage de l'avenir et ce paysage demain.
Voilà, ça c'est des choses
tout bêtement qui existent. Ça c'est à Barcelone, c'est une banque. Tout le mécanisme de façon de greffer.
Cette notion de végétation
qui n'est pas juste là pour les yeux, c'est là aussi pour le confort de créer un écosystème où on peut être mieux. Voilà, c'est tout bête, tout simple, d'être mieux.
Voilà, ça c'est John Wines aussi, à Manhattan.
Et cette chose-là,
John Wines avait fait dans les années
fin 90. Et croyez-moi, je regarde ça aujourd'hui et je regarde d'autres confrères, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que ça, c'est beaucoup plus en avance, même pour aujourd'hui. So, cette notion de cohabitation,
ça c'est aussi John Wines.
La cohabitation entre un paysage et un bâtiment. Ce n'est pas deux choses en opposition, c'est deux choses en cohabitation. Il faut cohabiter. Il faut des architectes cohabiter un peu.
Voilà, ça c'est juste deux, trois petites maquettes. Ça c'est des japonaises que je connais très très bien. Et là, ils ont fait une école. Voilà, ils avaient des arbres sur une place. Ils ont laissé des arbres sur place. Ils ont profité de ça.
Ils ont profité de cette langage, ils ont profité de cette matière.
Voilà. Ça, c'est sur la toiture de l'école.
Voilà, ça, c'est un projet que j'ai réalisé avec Edouard François en 2000. Ça, c'est un balcon. Ça, c'est un balcon dans un groupe de logements à Montpellier. C'est un espace. C'est un espace, un entre-deux. C'est un entre-deux, c'est un gros balcon. Mais ce n'est pas un balcon avec des réglementations 1,25 m. Non, c'est un balcon, c'est une pièce. Voilà, on peut aller avec notre copine et copain, on peut faire la fête, on peut sécher de linge, on peut faire plein de choses. C'est assez d'espace. Je pense aussi, ça, c'est une autre chose que j'ai...
Je ne veux pas entrer dans un débat politique ce soir. Ce n'est pas mon truc.
Mais... Il faut
le promoteur se réveiller un peu parce que
comme ils donnent de gens 1 m² de plus ou 2 m² de plus, je trouve ça mais bidon quoi. Il faut donner 20 m plus, 30 m plus, 50 m plus. Il faut toujours donner plus et c'est que comme ça on peut arriver à cette notion de voisinage qui marche.
Voilà, ça c'est de façade de bâtiment et on est de gros
passerelles. Qui allait d'un espace plutôt protégé parce qu'il fait chaud à Montpellier.
Et
après, on peut aller dehors. On peut aller dehors, mais c'est à partir de maison. Quoi.
Et Brigitte, ma femme, elle a une petite maison à Royan.
Voilà.
d'aller dans un espace, un autre, un état, un autre, et de voir
un peu comment cette cohabitation, cette besoin, voilà, qu'est-ce qu'on peut offrir.
C'est l'architecture absolument sublime.
Voilà, ça c'est le balcon. Fait avec des canisques,
on se trouve dans une plage. C'est toujours dans ce rapport entre paysage, c'est de trouver ces ingrédients et impliquer ça sur un projet architectural.
Ça c'est...
Je fais beaucoup de concours, mais je perds beaucoup de concours. Voilà. Beaucoup de concours perdent beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie.
Ça, c'est un logement social à Paris. Et la rue, ça s'appelle la rue de Poplier. Et il y avait une rangée de Poplier qui se trouve juste ici. Donc on a dit,
on est dans la rue de Poplier, il faut faire un projet Poplier.
Et on a décidé de faire un petit bosquet, une petite forêt. Pas parce qu'on voulait voir les arbres partout, mais on voulait entrer au cœur de le projet, d'identifier ce volume et entrer lumière. Et rendre ça plus agréable. Voilà, le poplier. Ça, c'est le petit croquis que
j'avais fait
avec mon équipe.
J'essaie de rendre un paysage complètement imbriqué au service de l'architecture
et au service de la qualité des espaces intérieurs de logement.
Et on est dans le logement social.
Voilà, c'est pour moi un bâtiment sans territoire.
C'est un parc.
Le parc, il est parti de l'architecture. Il traverse l'architecture et c'est tout.
Pour moi, l'architecture, c'est un peu comme nous tous. On n'est pas constitué de couches. C'est plus complexe que ça. Tant mieux. C'est plus complexe que ça. L'amour, il est hallucinant. Cette dame qu'on a rencontrée pour la première fois, c'est de folie, quoi. Il y a plein de folie. Et c'est ça que je pense, il faut aussi donner un peu de folie dans nos vies, même dans nos logements sociaux. Je ne sais pas à ce que j'arrive, mais voilà, c'est un petit but que je... Voilà.
Donc là, on est... Voilà. Pourquoi on n'est pas dans notre logement au centre de Paris?
Il fait tout fond, l'été fait chaud.
Voilà, on est à Paris. Et peut-être, à l'intérieur de notre logement social, on peut arriver dans une situation de... Voilà.
C'est plus agréable,
vis-à-vis.
Et voilà, cette bonne nouvelle que j'ai eue ce matin, de le concours que j'ai juste gagné ici à Lormont, voilà, j'ai envie de partager avec la ville de Lormont un peu cet espoir. Avec peut-être des gens qui sont très peu de moyens.
Pourquoi pas? Bon, je vais aller un peu plus vite. Ça, c'est un projet architectural et c'est basé sur un arbre.
C'est basé sur un arbre.
C'est de comprendre qu'est-ce que c'est un arbre,
qu'est-ce que c'est ce système racinaire.
Tous.
Et pour moi, c'est l'arbre qui dessine le bâtiment. Et ça, on veut faire ce projet-là, et c'est à Bayonne.
Voilà, on va faire son logement, j'espère. C'est de comprendre notre contexte, prendre profit de ce contexte pour mouler autour de elle. Voilà, et peut-être on peut offrir des espaces double hauteur,
des choses très agréables.
Voilà, d'autres images de centres de projets.
Ou encore, le parti pris paysager, ce n'est pas juste le papier peint. C'est faux. Il ne faut pas absolument utiliser le paysage comme un papier peint. Il faut regarder le paysage dans toutes ses facettes et montrer que
ça peut être imbriqué
partout dans l'architecture et peut vraiment nous servir beaucoup.
Voilà, ça c'est un petit clin d'œil que je voudrais bien partager avec vous.
Ça, c'est le Japon.
C'est le nom de Tokyo. Ça, c'est une région extrêmement plate
où le vent, il est très, très fort.
Et on voit les agriculteurs, toutes les fermes, ils sont construits ce brise-vent autour de logement. Et je trouve ça une simplicité incroyable. Incroyable. Et voilà, ça, c'est me donner une petite idée pour faire un projet architectural. Voilà, ça, c'est le projet. C'est un village de vacances près de Tours. C'était parti en 97, maintenant, à Juppy. Et c'est tout un travail sur lisière d'une forêt et de montrer un peu entre un faubourg et un forêt, comment on peut faire cette osmose, comment on peut faire cette jonction entre deux univers pour créer un troisième univers, un écotone où on habite, un écotone où on se profite de cette situation. On quitte de ville, on allait en vacances, on n'a pas envie de voir notre voisin. Voilà, ça c'est le projet. Ça c'est le premier dessin que je vais faire en haut à droite. Ça c'est moi dans un fauteuil, un club. Voilà, ça c'est le bâtiment. Et tout le monde dit, oh, et les araignées, oh, et les abeilles, oh, et les oiseaux. Ouh, dedans, il se fait très noir. Non, c'est le contraire. C'est le contraire parce que nous, on percevait en forêt comme quelque chose un peu de mystère, quoi, un peu noir. Non, c'est très étonnant. Tu entres dans ces bâtiments, c'est très, très éclairé. Voilà. Et ce bâtiment-là, il est vivant. Chaque fois que j'allais voir, il change. Il n'est pas juste une. J'en ai cinq bâtiments comme ça. Ils changent, ils grandissent, un peu comme nos enfants, ou comme nous, dans le temps. C'est assez surprenant. Et aussi, j'ai travaillé avec cette matière qui s'appelle de croissance verte. De temps en temps, tu sais, dans l'année, il perd ses feuilles. C'est curieux, ça, un arbre qui fait perdre ses feuilles. Mais ça aussi, c'est serviteur de le projet. Parce que dans les endroits où j'ai mis les feuilles qui perdent en hiver, j'ai des fenêtres. Pourquoi? C'est parce qu'hiver, il fait plus sombre. C'est comme les feuilles tombent, il n'y a plus de lumière qui entre dans les fenêtres. Ou sinon, je n'ai pas besoin de mettre plein de couleurs à l'intérieur du bâtiment. Pourquoi? Parce que tu sais, à le printemps, il y a des prunes, il y a des couleurs roses. So, il y a des reflets de couleurs dans les espaces. À l'automne, il y a des couleurs complètement flamboyantes et oranges. Voilà. So, quelque part, je gagne en argent partout, quoi, parce que j'ai juste des peintures blanches. Et voilà, ça c'est le projet. C'est un bâtiment qui fait 60 mètres de longueur. Divisé en deux étages. Il y a des petites fenêtres qui sont de bay window, qui traversent une haie de 83 cm sur un support métallique qui s'appelle un taupier. Et ça, c'est quelque chose que je veux bien partager avec vous. Ça, le client, il ne peut pas acheter. Il ne peut pas acheter. Pourquoi? Ça prend un peu de temps. Est-ce que tu penses dans l'architecture, c'est possible de faire communiquer avec quelqu'un que tu donnes la clé, tu dis, ça marche, attendez un peu, ça va changer. Je suis architecte. Voilà, ça c'est le projet. Et bon, il y a beaucoup d'histoires derrière ces projets. C'était pas si évident que ça, parce que c'était à cette époque-là, c'était quelque chose un petit peu différent. Mais bon, voilà. So, il est cinq bâtiments comme ça, qui on est bien tranquille. Bon, dans quelques heures d'intérieur, j'en ai fait un petit clin d'œil et j'ai pris des photos de forêt derrière. Et j'ai incorporé ça juste dans une ou deux de parois, juste pour donner un petit profondeur de champ dans les espaces intérieurs. So, je vais juste montrer quelques images. On connaît tout Patrick Blanc. Patrick Blanc, paysagiste. Je travaille sur Nantes en 96. Voilà, so, il est,
cette notion de le paysage artificiel, il ne faut pas, parce qu'on utilise le mot artificiel, c'est quelque chose de négatif. Et c'est juste un petit peu différent. Ça veut dire qu'on peut faire ça en serviteur de l'homme. Ça veut dire qu'il peut devenir une matière comme un morceau de papin. Comme je dis papin, ah oui, papin, on construit avec le papin, on a mis le béton, des choses comme ça. Ça, c'est pareil pour moi. C'est le papin végétal. Il y a une manière de mise en œuvre. Et ce que je trouve vachement intéressant, cette notion d'un paysage imbriqué dans cette situation d'habitat, c'est lié dans un mode assez artisanal. Moi, je pense que l'architecture, on est en train de perdre cette notion d'artisanal, quoi. Je crois que c'est très, très important.
Voilà, ça, c'est juste quelques images de beaucoup d'amis qui sont en train de travailler sur cette notion et cette imbrication entre la matière bâtie végétale et l'habitat. Ça, c'est une image d'un ami, Françoise Roche. Et c'est aussi cette notion d'artificiality, ça peut aller très, très loin. On peut modifier des choses. Ça, c'est son propre maison à Centre Paris. Voilà, on ne voit plus de maison. Mais on voit ces extensions entre une fenêtre, entre des végétaux, où des végétaux deviennent artificiels, ils deviennent même verts. Hein, on est entré dans un registre presque art nouveau. Voilà, ça c'est son maison.
Voilà, ça c'est un petit projet que je voulais juste partager. J'ai travaillé avec Arcarev et Incité l'année dernière sur un quartier de Bordeaux.
Voilà, c'était tout un travail sur qu'est-ce que c'est le patrimoine, comment la ville de Bordeaux peut se changer.
Bordeaux, il est plein de secrets, il est plein de jardins derrière ces murailles qui viennent sur notre trottoir. Il est plein de richesses qui est cachée. Personne ne se voit. C'est absolument hallucinant. Même c'est un jardin, mais il est très peu de choses, il y a quelques graines et tu traverses cette forme de façade en pierre si dure et tu arrives dans un autre monde. Et la chose que je voulais juste faire avec ce projet, de dire ben, il faut peut-être en profiter de cet autre monde et utiliser ça comme une matière de demain pour d'autres.
Et voilà, ce n'est pas nous en train de regarder notre lieu,
c'est les autres qui nous regardent. Les autres, les habitants, les utilisateurs, et aussi le lieu lui-même.
Voilà, parce que les gens autour de nous, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Bon, ça, c'est un petit plan qu'on a fait pour juste analyser tous les espaces verts à Bordeaux, au cœur de l'îlot.
Mais c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque.
J'étais vachement étonné. Il est presque plus de végétaux que de minéraux.
C'est bizarre.
Et ça c'est des quartiers où on a travaillé. Voilà, ça c'est des choses qui existent. C'est à Saint-Mich. C'est au cœur des îlots.
C'est fond de plein de choses qui se passent.
Assez agréable. Il fait chaud.
On mange dessus. C'est génial.
Donc on a fait un petit projet, on a dit ben, peut-être
la limite entre chacun où on habite, peut-être cette limite, on peut donner cette limite à quelqu'un d'autre.
Et on essaie d'infiltrer
et on essaie d'utiliser les greffes de végétaux pour renforcer la qualité au cœur des îlots.
Voilà, ça c'est des images que j'utilise beaucoup. Voilà, et c'était ça. So, ici, on est cœur des îlots, on est fait des idées de certaines démolitions, mais très légères.
On n'a jamais dépassé une seule parcelle. On est allé avec des pinces d'oie, jamais bousculé l'écosystème. L'écosystème végétal, mais l'écosystème aussi foncier entre chaque habitant.
Bon, après, on est inventé au cœur des îlots, c'est peut être magnifique. C'est... Il faut se profiter de tout ça. On est au cœur de Bordeaux.
Et après, je vais montrer quelque chose qui peut être un peu choquant. Mais j'avais même proposé
sur le quartier où on a travaillé, peut-être juste...
La voiture, c'est un sacré problème aujourd'hui.
Et ça, c'est des systèmes qui existent partout en Europe, surtout en Amérique. C'est des formes de parking elevator.
C'est très compact.
Et j'ai même proposé d'utiliser ce système, bien sûr, en cohabitation avec des végétales, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui font des clôtures en pépinière, où tu prends ces matières de bâti. Voilà, je vais aller sur... Ça, c'est une école que j'avais fait dans une usine. Je vais aller un peu plus vite, là. Ça, c'est un serre à Chaumont-sur-Loire. Je 10 minutes. J'ai moitié fini. Non, j'ai mis cette image-là parce que j'étais ami de Jean-Paul Pigeon, qui, unfortunately, est décédé quelques années avant. Et lui aussi, c'est un visionnaire de l'époque, de le début de Chaumont, de montrer que le jardin, ce n'est pas juste quelque chose qu'on met en regard, mais c'est quelque chose qu'on partage, on joue avec. Et Jean-Paul, il nous avait invités pour faire cette serre. Et la raison pourquoi je veux montrer ce projet-là, parce que pour moi, c'est le projet que je peux faire peut-être de tous. C'est rien. C'est 50 mètres carrés. Mais la chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit bassin et après on a mis du bambou avec cette forme de plastique, cette membrane. Et la structure intérieure, on a pris des tiges et on a attaché de bambou la structure intérieure
qui sont aucune fondation, c'est comme un macadam
juste posé. Il sort et il s'attache sur la plantation qu'on a mis autour du bâtiment. Juste pour aider le bâtiment un petit peu, quoi, tu vois. Et c'est très très beau parce que comme le vent il souffle, le bâtiment il bouge avec le bambou.
Et c'est incroyable.
Donc, c'est resté pendant le projet, c'était là juste pour un an et c'est resté 5 ans
et après c'était acheté par quelqu'un d'autre.
Et cette osmose entre un geste architectural et un paysage, pour moi, ce projet il est particulièrement important pour moi. Ça, c'est une photo que j'ai prise hier. Ça, c'est un jardin que j'ai en train de travailler à Lille. C'est le tour
qui sont végétalisés.
Ça, c'est un restaurant. Ça, c'est aussi cette notion de regarder notre contexte, de regarder les végétaux, jouer avec ces structures. Voilà, ça, c'est le tour qui est en cours de construction. Et on voit le bac, on a juste planté des végétaux hier. Voilà, quelques minutes et je vais arrêter. Ça, c'est un très grand projet que j'ai gagné en Norvège avec des amis norvégiens. C'est peut-être une des premières grandes écoles qui était un label européen sur le développement durable. Voilà, c'est dans un site. On a gagné des concours parce qu'on a fait complètement contre ce qu'ils voulaient. Ils ont dit, faut tout, surtout
pas toucher le site en milieu, parce que c'est le plus beau.
Sur nous, on a dit, ben, où c'est beau, peut-être on utilise le beau et on fait encore plus beau.
Voilà. Je ne veux pas juger le mot beau, hein, parce que là, on est parti pour 5 ou 6 heures. So, finalement, on a décidé,
voilà, on va être un peu agressive.
Et on va détruire le site, doucement, mais on va évacuer rien. On va garder tout sur place. Et on va montrer que l'homme il avait la capacité de, sur ce process d'extraction et de reconstitution, dans un process de reformaliser l'espace et utiliser l'espace au bénéfice de le collège.
Et voilà, tout le monde s'en joue de jeu. Ici, on a des entreprises qui... On a explodé un morceau de montagne.
Et là, on est en train de reconstituer la montagne.
Intérieur du bâtiment, en rez-de-chaussée, il est resté, c'est un gros morceau de granit. Encore cette liaison entre un intérieur et un extérieur espace, pour moi, c'est très très important. Tout le toiture, c'était de forme de plongeoir, prolongement de contexte paysager. Absolument tout le matériel est resté sur place et tout était réimbriqué et réutilisé dans le projet. Ça, c'est le hall central. Ça, c'est la partie supérieure. Là encore, les arbres qui ont été obligés de couper, ils étaient débités, ils étaient réutilisés dans la façade. Mais tous ces arbres, on les découpait. Avant de les découper, on les moulait. On les moulait avec un matériau pour faire des vitraux sur les arbres, sur la façade, avec une couleur très spécifique qui était demandée par les clients. Et ça rejoint un peu la chose que je vous ai dit tout à l'heure. Ma visage, il est marqué par le temps, par certains moments durs, moins durs. Et ces arbres qui ont été moulés dans un matériel, entre guillemets, pas très écologique, mais ils gardent toute trace, ils gardent toute mémoire pour des enfants, pour une éternité autour de l'école. Et voilà, ça c'est les arbres qu'on a pris avant de couper. On a fait ces vitraux qui après sont réinjectés et réimbriqués sur... Parce que il faut se marrer aussi, il faut être un peu gay, il faut utiliser un peu de couleur, il faut... Les enfants, ils prennent plaisir de ces lieux. C'est parce que c'est un lieu d'éducation, c'est pas forcément... lourd. Il faut c'est léger aussi. So ici, on a des étudiants qui nous aident. So ici, on voit l'arbre qui va rester pour une éternité, qui est coloré à côté de cette membrane qui vient se protéger contre la température extrêmement sauvage, à moins 45 degrés en Norvège. Voilà, ça c'est juste une partie de l'école. Voilà, je crois qu'il faut que j'arrête, mais bon, j'ai un autre projet à Bayonne qui est juste terminé. C'est encore l'homme et ce territoire, l'homme, la manière de protéger, de soutenir ce site. Nous, on avait travaillé ici à Bayonne, sur la bibliothèque de Bayonne. C'est un bâtiment semi-enterré dans un endroit extrêmement... c'est classé, un monument historique. Voilà, ça c'est les images d'intérieur. Au City Manifest, ça c'était aussi pour moi un projet très important. C'est une petite anecdote sur ce projet-là. Toutes les rues dans l'ancienne cité, ils sont 2,50 m. Et tu vois ici, le mec il garde sa bagnole, mais comme il veut. Et le nouvel plan, ils étaient 5,50 m. C'est pour passer deux bagnoles. Et. Moi, j'ai décidé, ce que je fais assez souvent, j'allais sur place et je restais sur place. Parce que pour comprendre un endroit, il faut rester sur place, quoi. On ne peut pas être juste traverser le lieu. Et je dis à tout le monde, mais c'est catastrophe ton quartier. Bagnole, mais c'est... Je vais aller à la boulangerie, qu'est-ce que je fais? C'est le bordel. Ils disent, non, on ouvre notre porte, on tape sur notre voisin, on dit, salut Fred, tu peux bouger de bagnole, j'ai envie d'acheter un baguette. Ah oui, Fred dit, oh, je vais acheter un baguette pour toi, ouais, ok. C'est un quartier qui marche avec des règles qui sont complètement hors de règles. Ça aussi, peut-être, il faut poser pas mal de questions et de voir, voilà, peut-être il faut poser certaines choses qui sont hors de règles. Et j'avais argumenté avec Jean Nouvel, Jean-Philippe Hanan, et je dis, ben, peut-être il faut prolonger ça, il faut prendre un risque, parce que c'est quelque chose qui marche bien. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, ça c'est mon projet. Et un peu violent, mais comme je dis, tu peux me juger, aujourd'hui, mais tu peux aussi juger moi dans 10 mois, ou 10 ans. La chose va changer, je sais. C'est un choix. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup publié dans les revues d'architecture, parce que les choses que je fais, ils sont assez laids. Oui, je pense aussi qu'on peut faire des bâtiments un peu laids et en donner un peu de temps. Et voilà. Ça, c'est mon projet, tu vois. Et finalement, ce que j'offre, c'est un parc. C'est un parc où l'habitant, dans l'avenir, il peut changer ses bâtiments, il peut monter sur la toiture, il peut récupérer des espaces. Et finalement, ça va donner un parc pour tout le monde,
même pour les habitants dans le parc,
sur ce quartier-là. Voilà, ça commence. Et finalement, après, il va être le parc avec juste quelques fenêtres. Et là, on est en cœur de ville.
On est en cœur de ville.
Avant, il n'y avait que de minéral partout. Et les gens, ils me disent, « Oh, ça fait peur !»
De rentrer dedans. Je dis, « Oui, c'est bien. »
Voilà, je passe vite dessus. Ah ouais, ça, c'est un autre projet que j'ai en train de faire à Toulouse. C'est un groupe scolaire et ça va être le premier groupe scolaire qui va être un vrai outil pédagogique. Donc, je vais arrêter. J'ai une autre dizaine de projets de montrer, mais bon. Voilà, c'est un groupe scolaire où, voilà, ça c'est la façade, où on travaille avec des couleurs, on travaille avec des ciseaux, l'espoir pédagogique. On partage des moments dans l'année où les enfants ils veulent se profiter de tout de couleurs et de changements. Voilà. Bon, ça c'est notre. Bon, moi j'arrête là. J'ai quelques d'autres projets aussi, mais.
On va pouvoir peut-être prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous en prie, vous avez peut-être besoin du micro.
Est-ce que dans une architecture comme la vôtre, peut-être arboriculteur ou qu'il faut avoir des compétences?
Comme on voit aujourd'hui, peut-être de plus grandes dépenses de chaque individu qui est en train de changer, c'est aller le week-end à Jardiland et d'aller à l'aéroport et chercher des fleurs. Il y a une notion de, dans le temps qui est en train de changer. Et je pense, comme je vous essaie de montrer, le végétaux, ce n'est pas quelque chose qui faut faire peur, quoi. Moi, comme je travaille avec beaucoup de promoteurs, ils se disent, entretien, comment on va entretien ça? Et je dis, peut-être vous avez besoin d'entretien ça un peu moins que nettoyer une fenêtre. So, c'est une notion culturelle qui faut juste être là pour le soin. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le végétaux. Hein. Par contre, j'ai des amis spécialistes sur le système racinaire des arbres. J'ai un ami qui, tu peux aller avec lui, il regarde un arbre, il m'a déjà montré ça, il a dit, bon, la racine n'est pas comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est 30 cm sur le terre, quoi. Il m'a montré le dessin qu'il avait fait de ces racines d'arbres qu'il ne voit pas, quoi. Moi, je ne vois pas, lui, il voit. Ça, c'est juste, peut-être, c'est une connaissance. Mais bon, ça, c'est un extrême. Mais je pense, on tous sait à bricoler un peu, quoi. Moi, je fais du bricolage. Le bricolage avec des gens que j'aime. C'est le projet-là que je n'avais pas le temps de montrer. J'essaie de aussi utiliser le paysage comme serviteur de l'homme. Pourquoi je fais ça aussi? Parce qu'il est de contrôler un petit peu de température dépendant de l'année. On sait que comme on est trop chaud, on allait sur un arbre. N'est-ce pas? On sait les choses que je dois faire avec ma beau-père en Dordogne. L'été, il y a une vigne. Il n'y a rien de plus beau qu'aller sur la vigne et manger un bon plat périgordin, quoi. C'est le génie dans le monde, quoi. Tu ne veux pas demander plus, quoi. On n'a pas besoin de l'autre bout du monde. C'est incroyable. Et après, un petit peu de vin et un petit hamac, le tour est gagné, quoi. Mais ce que je veux juste essayer de vous montrer, oui, le végétaux, c'est un savoir à faire. Mais il faut juste aller là où les gens qui donnent le renseignement. Ici, c'est une école que j'avais faite. On voulait protéger la façade, on voulait complètement construire un parc, on voulait le bâtiment, il est parti de langage de ce parc, parce que c'est une école pour des petits mômes, il faut sentir plus à l'aise au cœur de la ville. Et là, je dis, il faut trouver un système super industriel, quoi. Parce que qu'est-ce que se passe comme il y a un moment, le végétaux, il a un défaut dans le système. Comme il meurt, il faut être dans une situation de changer.
Justement changer. So, là, aussi, j'ai développé avec Soprema Strasbourg, sur cette école-là, un système assez industriel. Avec, voilà.
Ça, c'est Aubernais. Ça, c'est
un groupe scolaire où j'ai travaillé. Et la chose que j'essaie de travailler aussi, c'est des végétaux, mais en deux vitesses. On peut être malin. Et on peut trouver des végétaux qui poussent 10 mètres dans un an. OK? Mais on peut mettre d'autres végétaux qui sont d'autres ingrédients qui poussent beaucoup plus lentement. Mais par contre, ils sont beaucoup plus costauds, avec des feuillages beaucoup plus denses. So, doucement, l'autre, qui est poussé très très vite, il devient un peu malade à côté de lui. So, voilà. C'est un peu comme nos enfants et les grands-pères, les grands-mères. Voilà, c'est. Ça, c'est naturel, quoi.
Une autre question, sans doute, hein? Daniel.
Ouais.
Est aussi attaquante. Et alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être intrusif par la nature, mais dans ce jeu qu'il y a avec la nature, il faut quand même tenir compte du risque d'agressivité de la nature.
Mais bien sûr, ça c'est tout le projet que je fais. Moi, j'ai des assurances lourdes. Comme j'ai construit un bâtiment, il y a une fuite et j'ai 2-3 millions de francs. Les gens qui commencent à m'attaquer, oui, il faut être prudent. Il faut être prudent, mais en Norvège, la maison traditionnelle, en bois, on extrait le corse de le bouleau, on est posé, et après on a mis de terre, et ça dure des années, quoi. C'est juste un savoir à faire. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui nous répondent aujourd'hui. Peut-être un peu moins ici en France, surtout en Allemagne, en Scandinavie, sur ce rapport, mais la chose qui est assez positive, on voit qu'il y a un changement, un vrai changement qui est en train de se faire. So, je regarde ça assez positivement, quoi. Ah. C'est la caméra. Ah ben, c'est vachement intéressant l'histoire de la toiture végétale et tout ça. On travaille avec les entreprises où le système racinaire il fait un tissage qui protège. Il est tout un système qui est fondamentalement assez naturel qui se passe entre le rapport entre la nature, le végétal et un bâtiment. Quoi. Il y a des choses qui sont inhérentes dans le végétal. C'est vrai, comme je plante un arbre à quelques centimètres d'une façade, je ne suis pas con. Hein. Je travaille avec les ingénieurs et on fait des fondations spéciales, avec des ferraillages un peu plus spéciaux. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais la façade, je n'ai rien à foutre. J'ai des arbres qui rendent des couleurs différentes, qui changent. Sur les enduits à l'extérieur, je fais des choses avec peu de moyens. Sur, je trouve de balance, même dans la construction. De le projet.
Une dernière question. Avant une dernière image, si je comprends.
Bon, je veux juste finir avec ça c'est un projet que je fais à Espresso en Espagne. c'est de créer un bâtiment écosystème qui est lié avec le Huerta à Valencia, qui est en train d'être sacrément prospection immobilière. Bon, ça, c'est d'autres. Je vais juste finir avec un petit. Ça, c'est d'autres études d'hôtel. Voilà. Voilà, je vais juste finir avec ça. Voilà. So, quand je dis oui, il faut jouer avec la nature, mais il faut jouer avec le sens de la nature, et ce n'est pas forcément le bout de graines de pelouse qu'il faut valoriser, mais c'est toutes les choses de sensibilité et le rêve derrière tout ça qu'on peut partager.
Ça, c'est un façon que j'ai développé avec Uwe Riga à Berlin, où on travaille avec des projections de plantes, de fleurs, sur une façade qui est photosensible. Tout simplement, quand le soleil il monte, tout ça se s'ouvre, qui protège le bâtiment. Et voilà, et comme il y a des nuages, voilà, il se ferme tout simplement un peu comme un fleur.
C'est un feu qui s'ouvre avec le soleil et qui se ferme dans la nuit.
Voilà, ça c'est
pas forcément besoin juste sur le morceau de pelouse. Quoi. On peut imaginer plein de choses. Surtout, il faut partager cette bout de rêve en chacun d'entre nous.